la mi-journée.
Bonjour, 2 milliards et plus d'une centaine de nouveaux supermarchés à travers la Suisse. Migros investit dans sa propre marque avec à la clé une baisse des prix. Nous serons à Zurich où le géant Orange dévoile sa nouvelle stratégie ce lundi. La population vieillit et le Jura n'y échappe pas. Le petit canton se prépare à prendre en charge ses futurs aînés avec un objectif, retarder le plus possible leur entrée en EMS. Il avait promis d'être présent à sa première audience pour violence sexuelle. Eh bien, il n'est pas là. Gérard Depardieu invoque des raisons de santé. On sera avec Benjamin Louis devant le tribunal de Paris. Et à la fin de ce journal, on fera un tour en Afghanistan. Notre invité Claude Bechtold vous embarque sur la banquette arrière d'une vieille carlingue, partie explorer le chaos de la guerre. C'était juste après les attentats du 11 septembre. Une histoire vraie, parfois absurde et totalement déjantée, à voir dès mercredi au cinéma. Du soleil au-dessus du brouillard et des températures douces pour la saison, c'est le menu de cette semaine. On est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue dans ce journal. Et on ouvre ce journal avec le géant de la distribution, Migros, qui passe à l'offensive après des annonces de restructuration. Le groupe annonce aujourd'hui des investissements de 2,5 milliards de francs avec au programme des baisses de prix dans toutes les catégories et des ouvertures de nouveaux magasins. Bonjour Mathilde Farine.
Bonjour.
Vous êtes à Zurich où le géant a communiqué ce matin.
Oui, Migros commence avec quelques dizaines de fruits et légumes dont les prix baissent dès aujourd'hui. Et puis elle étendra ses mesures à d'autres, viande, produits laitiers, etc., tout en proposant des actions sur les produits les plus demandés. Alors l'idée, c'est de rendre le panier de courses de base moins cher. Migros ne vise pas un type de produit. Ça peut être des produits frais, bio ou non, ou des produits plus transformés. Et en ce sens, c'est différent de sa ligne de produits M-Budget. Le message est clair, la coopérative lutte contre la concurrence des discounters, elle va s'aligner sur leurs prix, même s'ils baissent encore. Et elle veut aussi revenir avec ses produits en marque propre, donc les produits qu'elle fabrique elle-même. Elle en compte environ 200 aujourd'hui. C'est une stratégie qui a été quelque peu mise de côté ces dernières années pour offrir aux clients davantage de marques qu'ils connaissent déjà. Alors toutes ces annonces, c'est à la fois un recentrage sur ses activités de base qu'elle annonce depuis le début de l'année et une offensive pour se renforcer comme numéro un de la grande distribution en Suisse.
Oui, parce que Mathilde, on le disait en titre, hein, Migros veut aussi ouvrir de nouveaux magasins.
Oui, et c'est à cela que seront consacrés l'essentiel des investissements. On parle de 2 milliards sur les 2,5 annoncés. Ils seront consacrés à la rénovation de 350 magasins et surtout Migros prévoit d'en ouvrir encore 140 au cours des 5 prochaines années. Surtout de petites surfaces pour se rapprocher des clients. Un domaine où elle a été un peu rattrapée par Coop ces dernières années parce que Coop a multiplié les plus petits supermarchés de proximité.
Merci Mathilde Farine à Zurich. Coop justement qui annonce qu'elle décide d'augmenter les salaires de 1% aujourd'hui. Les syndicats Unia, Sina, OSST et la Société des employés de commerce regrettent néanmoins la non-entrée en matière du géant de la distribution sur une compensation intégrale du renchérissement et des primes maladie. Nouvelle révélation dans les cas d'abus sexuels dans l'église. Après une longue enquête, la congrégation du Grand Saint-Bernard fait la lumière sur son passé. Elle révèle ce matin que 5 cas d'abus sexuels ont été identifiés entre 1955 et 1983. Émilien Verdon, vous êtes en Valais. Les investigations étaient menées après la révélation d'une première affaire. C'était en 2021.
Oui, la congrégation du Grand Saint-Bernard, alors responsable du collège de Champitay, puis apprend qu'un de ses chanoines a abusé sexuellement d'un enfant de 12 ans au début des années 80. Le ministère public vaudois a classé le dossier pour prescription. Puis un deuxième cas en Valais, cette fois, est révélé dans la presse. C'est dans ce contexte que la congrégation du Grand Saint-Bernard lance une enquête pour savoir si d'autres cas se sont produits par le passé. Des archives secrètes ont notamment été passées en revue. Et aujourd'hui, on apprend que 3 nouveaux cas d'abus sexuels ont été commis entre 1955 et 1983.
Alors 3 nouveaux cas, mais où se sont produits les faits ?
Il n'y a pas eu d'autres victimes au collège de Champitay. Les trois nouveaux cas ont été commis en Valais, selon le rapport. Un chanoine a été reconnu coupable en 1971 d'attentat à la pudeur sur au moins 10 enfants. Un autre a abusé d'un jeune homme en 1983. Tous les deux sont décédés aujourd'hui. La troisième affaire est, elle, plus floue. Il manque de documents pour établir tous les faits. Tous ces abus perpétrés au sein de l'église en Valais ont été classés pour prescription par le ministère public.
Émilien Verdon. Et ce constat maintenant, la population vieillit et le Jura n'y échappe pas. D'ici 2040, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus va augmenter de près de 70% dans le canton. Et les autorités ont décidé de prendre les devants. Elles ont présenté ce matin leur nouvelle planification médico-sociale avec un objectif, anticiper une forte hausse des besoins de prise en charge. On vous retrouve Gaël Klein.
Eh oui, de 4900 aujourd'hui, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus doit passer à 8200 en 2040 dans le Jura, une estimation qui tient déjà compte de la population de la ville de Moutier. Dans un canton qui comptera bientôt 82 000 habitants, l'enjeu est majeur, c'est quasi une personne sur 10 qui pourrait être concernée dans un avenir pas si lointain et dans un canton dont les ressources financières restent limitées. L'élaboration de la nouvelle planification médico-sociale a permis d'identifier 7 domaines d'action évalués prioritaires. Pêle-mêle, on y trouve la mise en place de réseaux de soins, l'accompagnement social, le développement des technologies numériques, sans oublier les mécanismes de financement ou encore la pénurie et l'évolution des professions soignantes qui sont sous pression. Un des objectifs du gouvernement est de retarder l'entrée en institution lorsque c'est possible, soit pour 10% des situations, en augmentant par exemple les prestations à domicile, afin d'éviter la hausse des lits de long séjour, le ministre de la Santé Jacques Gerber.
Cette volonté de rester à domicile est l'enjeu premier. Et pour ce faire, eh bien, nous devons renforcer certains dispositifs d'aide, de soins à domicile. Les nouvelles technologies permettront certainement également d'améliorer la sécurité, la prise en charge dans certains cas de patients qui désirent rester à domicile.
Cette volonté de privilégier le maintien à domicile, elle a déjà porté ses fruits depuis une dizaine d'années. Mais on peut encore faire mieux pour favoriser le bien vieillir, estime-t-on dans le Jura, en mettant la personne âgée au cœur d'un réseau et d'une communauté chargée d'assurer une prise en charge efficiente et globale. Là est tout le défi de ces prochaines années.
Et puis à Fribourg, les autorités veulent assurer un revenu décent aux agriculteurs et agricultrices et réduire leurs charges administratives. Mehdi Piquant, le Conseil d'État fribourgeois a présenté ce matin ses objectifs pour les 5 prochaines années avec une prise en compte des revendications issues des révoltes agricoles.
Produire mieux, oui. Produire moins, non. L'adage répété ce matin par le Conseil d'État fribourgeois. Si la grande partie des décisions sur l'agriculture se prennent au niveau fédéral à Berne, le canton de Fribourg ne veut pas rester les bras croisés. Il faut dire que la filière agroalimentaire est un secteur clé qui pèse. Elle représente 1 emploi sur 5 dans le canton de Fribourg. Alors, 7 axes principaux ont été identifiés sur lesquels travailler d'ici 2029. Parmi les priorités du gouvernement, valoriser la profession d'agriculteur. Il veut veiller au bien-être des familles paysannes dans le canton, avec notamment un accent qui sera mis ces 5 prochaines années sur la filière du lait. Suite à un sondage mené récemment, les autorités craignent en effet une sérieuse baisse de la production ces prochaines années. Alors le canton veut notamment motiver les jeunes à se lancer dans cette filière du lait. Et puis le canton de Fribourg qui promet aussi de participer ces prochaines années à une simplification administrative de la politique agricole.
Et Mehdi, le canton de Fribourg veut aussi assurer un revenu agricole satisfaisant aux familles paysannes.
Oui, alors il va s'engager à défendre un revenu qui assure une bonne qualité de vie aux familles paysannes. Il promet aussi de se battre pour éviter une baisse des contributions fédérales. Mais le Conseil d'État fribourgeois l'a répété ce matin, sa marge de manœuvre est extrêmement limitée sur cette question du prix. C'est avant tout aux acteurs de la branche d'assumer leurs responsabilités selon le gouvernement fribourgeois. Reste que le canton souhaite une amélioration de la transparence dans la formation des prix. Et là, Fribourg, comme d'autres cantons d'ailleurs, attend beaucoup de la future politique agricole de la Suisse, la PA30+, sur laquelle planche actuellement la Confédération.
Mehdi Piquant à Fribourg. Nouveau record des concentrations de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, CO2, méthane ou encore protoxyde d'azote. Ces gaz n'ont jamais été aussi concentrés dans l'air qu'en 2023. Et l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, basée à Genève, publie aujourd'hui son rapport annuel. Fouad Boukhari, vous nous expliquez comment comprendre ce nouveau record.
Eh bien, il y a toujours en grande majorité derrière ces émissions de gaz à effet de serre nos activités humaines et industrielles extrêmement extrêmement gourmande en énergie non renouvelable, les fameux carburants et combustibles fossiles. Mais l'an dernier, les scientifiques ont aussi observé dans cette concentration de gaz à effet de serre record l'impact de plus en plus important des incendies. En plus de rejeter des quantités importantes de CO2 dans l'atmosphère, les feux de forêt et de végétation diminuent année après année la capacité d'absorption de ce gaz par les massifs forestiers. Résultat, près de la moitié de nos émissions de CO2 restent ainsi dans l'atmosphère et s'accumulent plus rapidement que jamais dans l'histoire de l'humanité. Une accumulation en hausse de plus de 10% en à peine 20 ans et avec elle donc une planète qui se réchauffe plus rapidement que jamais dans l'histoire cette fois de notre globe. À ce rythme et avec les politiques climatiques actuelles, la Terre atteindra un réchauffement dramatique de 3,1 degrés ces prochaines décennies.
Merci Fouad Boukhari. Et pour réagir à ces chiffres, j'ai pu joindre en fin de matinée la climatologue Martine Rebété, professeure à l'université de Neuchâtel et à l'Institut de recherche WSL. Et son message est clair, malgré la mauvaise progression des émissions de gaz à effet de serre, nous sommes à un moment charnière qui nous mènera vers une transition.
Alors pour nous, c'est pas vraiment une surprise parce qu'en fait, si les gaz à effet de serre, le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, c'est parce que l'humanité en émet toujours plus en utilisant toujours davantage d'énergie fossile, donc toujours davantage de pétrole, de gaz et de charbon qui sont brûlés et qui vont se retrouver dans l'atmosphère. Et c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on voit que chaque année, nous en émettons encore davantage.
Mais alors, rapport après rapport, les scientifiques disent la même chose. Qu'est-ce que ça apporte au public de continuer à informer sur ces rapports, à publier ces données ?
Bon, on est vraiment, malgré tout, on est quand même à un moment où on est en train de vivre un tournant. On voit qu'on est à l'échelle mondiale en train de vraiment remplacer les énergies fossiles par de l'électricité d'origine renouvelable, essentiellement du photovoltaïque. Donc l'énergie solaire est en train de commencer à remplacer ces énergies. Mais pour l'instant, on a plutôt une addition des anciennes énergies et des nouvelles. Mais vraiment, les signes sont positifs. Comme climatologue, ce que je regrette, c'est que ça se fasse un peu trop tard. Donc, on va avoir malgré tout un changement climatique qui va être important. Mais on s'attend à ce que vers déjà 2040, on ait déjà bien opéré le tournant énergétique, donc vers des systèmes qui ne reposent plus sur les énergies fossiles comme le pétrole et le gaz.
Donc pour vous, il ne faut pas perdre espoir. Hein. Cette information, même si elle n'est pas positive, elle a quand même un impact sur les choix de société et les politiques.
Alors ce n'est surtout pas le moment de perdre espoir parce que tout est à faire. Tout est à faire dans l'électricité en particulier. Maintenant, nous produisons à chaque fois, là aussi, les chiffres sont battus et largement battus par rapport aux prévisions. La production d'énergie solaire augmente énormément chaque année dans le monde, en Suisse aussi, malgré tous les efforts des lobbies qui veulent absolument continuer à vendre du pétrole et empêcher le solaire de prendre le relais. Donc on va vers quelque chose de nouveau, mais qui est un monde qui est vraiment très enthousiasmant et ça va se faire durant ce siècle. Donc pour tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment des domaines dans lesquels ils vont pouvoir s'engager pour véritablement aller vers un monde qui sera différent de celui que nous avons connu.
Martine Rebété qui réagissait donc à ces nouveaux chiffres publiés par l'Organisation météorologique mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre. On passe à l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est d'abord ce procès à Paris. Gérard Depardieu doit comparaître ce lundi devant la justice. Il devait comparaître, jugé pour deux plaintes pour agression et harcèlement sexuel lors d'un même tournage en 2021. Paris, où on vous retrouve au tribunal, Benjamin Louis, coup de théâtre tôt ce matin. L'acteur a fait savoir qu'il ne se rendrait pas devant les juges.
Oui, Gérard Depardieu qui sera donc absent pour des raisons médicales. Il a fait savoir cela par son avocat sur plusieurs antennes françaises ce matin. Un rebondissement car ce même avocat avait largement relayé hier l'intention ferme de l'acteur de comparaître devant la cour afin de clamer son innocence. On apprend également ce matin que l'acteur va demander un renvoi. C'est le juge qui doit en décider à l'ouverture de l'audience tout à l'heure à 13h30. Si ce renvoi est rejeté, il s'agirait donc d'un premier procès pour Gérard Depardieu visé par de nombreux témoignages et plaintes depuis 6 ans. Les affaires de ce lundi émanent de 2 femmes présentes sur le même tournage que Gérard Depardieu en 2021 et qu'il accuse de faits d'agression et de harcèlement sexuel. L'acteur leur aurait imposé des attouchements et aurait proféré des propos obscènes, voire des insultes et des menaces face à leur refus.
Mais alors, Benjamin, qu'en court exactement Gérard Depardieu ?
Il encourt une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros. On rappelle que Gérard Depardieu est par ailleurs visé par une autre plainte pour viol déposée par l'actrice Charlotte Arnoux. L'instruction est allée à son terme. À voir désormais quelle orientation le juge décidera de donner à la procédure. Gérard Depardieu s'est peu exprimé sur ses affaires. En octobre 2023, il affirmait dans un entretien au journal Le Figaro n'avoir, je cite, jamais, au grand jamais, abusé d'une femme. Il avait notamment reçu en novembre dernier le soutien du président de la République, Emmanuel Macron, disant de lui, je cite, qu'il fait honneur à la France. Le procès pour agression sexuelle de Gérard Depardieu débutera donc à 13h30 tout à l'heure et nous saurons donc assez rapidement s'il est renvoyé ou non.
Benjamin Louis, en direct de Paris, merci. Et au Moyen-Orient, une attaque israélienne a visé ce matin le centre de la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban. Le ministère de la Santé libanais évoque 5 victimes et 10 blessés. La nuit dernière, l'armée israélienne a frappé la banlieue sud de Beyrouth, la plaine de la Beka, l'un des bastions du Hezbollah, près de la frontière syrienne. Des villages ont été en partie rasés et dans cette région libanaise, toutes les communautés religieuses vivent ensemble. À Rayak, une frappe israélienne a détruit un cimetière chrétien. Reportage de Noé Pignède et Serline Martelet.
Les allées du cimetière de Rayak sont toujours recouvertes de débris. Les croix en acier ont été ramassées et mises de côté soigneusement. Et partout, cette poussière grise, celle qui s'échappe encore des ruines d'un bâtiment voisin réduit à néant par une frappe aérienne israélienne. Au sous-sol de cet immeuble, il y avait un garage, selon les habitants. La violence de l'explosion a soufflé plusieurs tombes.
Ici, il manque une porte. Tout est abîmé. Tous les caveaux du cimetière ont été endommagés. Ici, c'était notre caveau familial. Il a été entièrement détruit.
Nadim a 31 ans. Le lendemain du bombardement, il s'est précipité au cimetière pour extraire des décombres, les dépouilles des membres de sa famille.
On a pu déterrer 2 membres de ma famille pour les enterrer ailleurs, ma grand-mère et ma tante. J'ai acheté des nouveaux cercueils et j'y ai moi-même déposé leurs corps. On ne pouvait pas les laisser ici sous les décombres. Ce sont nos proches, ce sont nos grands-mères, nos grands-pères, nos parents, nos morts.
Dans ce cimetière, plusieurs générations de Libanais, chrétiens, catholiques, mais aussi orthodoxes se sont enterrés. Et après l'explosion, des musulmans sont venus aider pour déblayer une partie des débris. Le père Omer est le prêtre catholique grec de Rayak.
On n'a pas été visé directement, mais on est une seule communauté ici. Moi, je suis chrétien, lui, il est chiite. Quand tu vises l'un d'entre nous, eh bien, moi aussi, je vais être affecté. Donc, tu ne peux pas dire que tu vises seulement les autres. Parce qu'on est une société mixte et unie.
Tout de suite après l'explosion, la communauté chrétienne a lancé une cagnotte en ligne pour aider les familles à reconstruire au plus vite leurs caveaux au même endroit, une fois la guerre terminée.
Le reportage de Noé Pignède et Céline Martelet. Et l'Union européenne et les États-Unis demandent une enquête approfondie sur les résultats des élections législatives en Géorgie. Des élections contestées par l'opposition pro-européenne sortie vaincue des urnes. La présidente Salomé Zourabichvili, issue de l'opposition, accuse la Russie de manipulation des urnes, ce que rejette Moscou. Ceci n'a pas empêché le premier ministre hongrois Viktor Orban de se réjouir du résultat juste avant une visite officielle en Géorgie. Alain Franco, vous êtes notre correspondant auprès des instances européennes où le cavalier seul du Hongrois est très mal perçu.
Mais quoi qu'en dise Viktor Orban durant sa visite, il ne représente pas l'Union européenne. C'est en ces termes que Josep Borrell, le vice-président de la Commission européenne, a commenté la visite qu'entame le Premier ministre hongrois à Tbilissi au lendemain de la victoire très contestée du gouvernement anti-européens lors d'un scrutin entaché de soupçons de fraude. Mais en fait, il en faudrait plus pour museler le Premier ministre hongrois. Les hasards du calendrier font que son pays occupe pour 6 mois la présidence tournante de l'UE. La règle du consensus qui sied à cette fonction n'a pas compté bien lourd dans sa réaction. Hier, Viktor Orban a salué la victoire écrasante du peuple géorgien qui sait ce qui est le mieux pour lui. Le message de soutien est clair et disruptif, contraire à ce venu de plusieurs capitales. Bruxelles réclame une enquête indépendante sur les conditions du vote.
Alain, il faut dire que ce n'est pas la première fois que Viktor Orban fait ainsi cavalier seul, sans se soucier de la position politique de ses homologues européens.
Oui, Orban est même coutumier du fait qu'il s'affiche avec Vladimir Poutine, boycotté par ses homologues européens. Et alors que ceux-ci craignent le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Orban déclare « En cas de victoire de Trump, je déboucherai plusieurs bouteilles de champagne ». Orban recevra ses homologues européens à Budapest pour un sommet informel juste après les élections américaines, avec ou sans changement, ou sans champagne, pardon. La rencontre se tiendra sous le signe de cette actualité internationale. De Washington à Tbilissi.
Alain Franco à Bruxelles, merci. On passe au sport avec cette question. Qui sera désigné meilleur footballeur de la saison 2024 et repartira donc ce soir de Paris avec un ballon d'or? Le suspense prendra fin en fin de soirée au Théâtre du Châtelet. Bonjour Caroline Raymond.
Bonjour.
Les favoris sont à rechercher du côté de l'Espagne.
Oui, la joueuse de Barcelone, Aitana Bonmatí, a toutes les chances de conserver le trophée meilleure joueuse de la Ligue des champion, vainqueur avec l'Espagne de la Ligue des Nations. La joueuse de 26 ans part avec les faveurs de la cote. Et chez les hommes, eh bien, le suspense reste entier. En l'absence de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, pour la première fois depuis deux nouveaux profils vont pouvoir émerger. Le nom de Vinicius Junior circule avec le plus d'insistance. Le joueur du Real a changé de statut l'année dernière. Il a été l'un des artisans du doublé Ligue des Champions Liga Espagnole avec le club madrilène. Et hors terrain, il est aussi devenu l'une des figures de la lutte contre le racisme. Son partenaire au Real, Jude Bellingham, ainsi que Rodri, qui a conduit l'Espagne au titre de champion d'Europe, et Manchester City au titre de champion d'Angleterre, sont ses principaux concurrents. Ce ne sont que des suppositions cette année. Tout a été organisé en amont pour éviter les fuites. Le lauréat n'a pas été informé de son sacre. Seules deux personnes connaissent le ballon d'or, le producteur de l'émission et le rédacteur en chef du magazine France Football, créateur du trophée.
Merci Caroline Raymond.
Le 12-30, Sophie Islin.
Notre invité est Claude Bechtold, réalisateur du film River Boom. On passe tout de suite à l'interview, mais d'abord, bande-annonce.
Nous sommes en 2002, au milieu de l'Afghanistan, en pleine zone talibane, peu après l'intervention militaire américaine. Alors que les médias du monde entier se concentrent à Kaboul sur les promesses de la Pax Americana, 3 jeunes reporters s'embarquent dans un road trip insensé de 2 mois autour du pays, à la rencontre du peuple afghan. Le photographe avec les grandes dents, c'est Paolo. Le journaliste qui a mauvaise conscience, c'est Serge. Quant au caméraman qui tremble de peur sous sa pashmina, c'est moi. Je m'appelle Claude et je vais vous raconter comment ce voyage a changé ma vie. À condition, bien sûr, de sortir vivant de cette bagnole.
Alors, vous en êtes sorti vivante, cette bagnole, Claude Bechtold, puisque vous êtes avec nous ici en studio. Mais la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes embarqué dans cette aventure ?
Bonjour Sophie. Eh bien moi, je me suis embarqué dans cette aventure par accident, comme à peu près tout ce qui se passe dans ce film. C'est une succession de hasards. En réalité, on était en 2002. J'avais perdu mes parents, j'étais dans une période de ma vie compliquée. Et il y a un mec qui sonne à ma porte et qui me dit « je pars en Afghanistan, j'ai besoin d'un copilote ». Et ce mec, c'était Serge Michel. Je le connaissais à peine. Et en fait, il m'a dit, c'est rapide, en 10 jours, on sera à Kaboul et tu pourras rentrer. Et voilà, ça a commencé comme ça, par un petit tour à Kaboul. Et ensuite, on a rencontré Paolo. Et moi, j'étais bloqué à Kaboul. Et finalement, on s'est retrouvés les trois dans cette bagnole pendant 2 mois.
Ouais, les trois sur la. Enfin, vous êtes sur la banquette arrière. Arrivé à Kaboul, vous achetez une caméra au souk, au bazar, et puis vous faites procurer des fausses cartes de presse, et vous montez donc à bord de cette vieille Suzuki qui va parcourir des centaines de kilomètres sur les traces d'Ella Maillard et Anne-Marie Schweitzenbach. Pourquoi ce périple ? C'était un prétexte pour documenter le chaos afghan ?
Alors. Nous, on suivait Serge. La locomotive, c'est Serge Michel qui a déjà une grande expérience à l'époque et qui, comme Bouvier, a découvert le monde à travers les cartes. Donc, il suit cette route que la Maillard avait prise en 1939 quand l'Europe était en guerre et l'Afghanistan était en paix. Et c'est une route qui n'existe quasiment plus, en fait. C'est vraiment des minuscules routes qui, en fait, disparaissent. À la fin, c'est des champs de boue. Et lui, il veut absolument faire le tour de l'Afghanistan pour faire l'inventaire du pays, pour voir ce qui se passe réellement, si l'opération occidentale fonctionne effectivement, la Pax Americana qu'on a promis à l'Afghanistan, si elle se révèle vraie dans le pays. Et donc on part et faut vous dire qu'à Kaboul à l'époque, il y a 10 000 journalistes, il y a 200 000 ONG, soldats du monde entier, tout l'OTAN est là, c'est pas comme seulement les Américains. Et quand on part de Kaboul, en 2 heures, on rencontre plus personne. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui nous a marqué quand on a vu ces bandes, c'est qu'en fait, on était seul avec l'Afghanistan et le peuple afghan, mais on n'a rencontré aucun occidentaux pendant ce périple.
Ouais, et c'est ça qui est assez génial dans ce film, hein, c'est que vous vous présentez un peu comme une bande de pieds nickelés, vous montrez les envers du décor, donc on vous voit sur le bord de la route, en train de manger, dormir la bouche ouverte. Ça donne aussi quelque chose de très accessible hein, pour les gens qui n'ont pas fait des voyages comme vous et pris des risques en partant faire le tour de l'Afghanistan.
C'est déjà la période difficile du journalisme. Et Serge et Paolo sont des freelances en fait. Donc ils ont pas de voiture blindée, ils ont pas d'hôtel réservé ou de maison à Kaboul. Donc ils doivent tout payer eux-mêmes. Donc ils ont des piges et donc c'est évidemment on est d'une Toyota Corolla à l'époque. Heureusement les Afghans avaient des bonnes bagnoles. C'était des vieilles Toyota Corolla avec des volants à droite. Et on était dans ces Toyota puis on a traversé l'Afghanistan vraiment. Où on se serrait, on était toujours dans la même chambre, on dormait par terre. C'était l'Afghanistan des petites routes. Mais, en fait, c'était aussi l'Afghanistan super intéressant parce que on arrivait comme des pecnos, en fait. En plus, Serge et Paolo étaient habillés un peu n'importe comment, moi aussi. Donc, les gens nous prenaient en pitié et on a toujours été aidés, en fait. On a toujours été accueillis. Et en réalité, alors que tout le monde était allé en Afghanistan pour sauver l'Afghanistan, c'était le grand truc, toute l'Europe, l'Occident allait sauver l'Afghanistan. Ben voyons. Et nous, en fait, on était 3 petits protestants restant d'une voiture et on n'a pas arrêté d'être sauvés par des Afghans en fait.
Ouais, vous parlez de Pegno, de 3 petits protestants dans une voiture. Il y a un côté, c'est comme ça que vous réalisez le film. Hein. Il y a un côté très naïf dans votre entreprise, alors qu'on sait, hein, Serge Michel, Paolo Woods, grands reporters qui ont été lus à travers le monde. Mais en même temps, il y a cette humilité, peut-être un peu suisse, d'arriver comme ça, complètement naïf, et de regarder ce qui se passe, et simplement se faire trimballer à gauche à droite pour arriver finalement à des interviews assez exceptionnelles.
Oui, alors moi je pense que Serge et Paolo ne sont pas du tout naïfs, en fait c'est vraiment des chiens de chasse en fait, ils prennent jamais de pause, donc ils travaillent tout le temps, c'est des journées de 16 heures de travail, ils s'arrêtent jamais, mais moi j'étais très naïf en fait, moi je suis vraiment le type qui ne devait pas être là en fait, et je pense que Serge et Paolo m'ont mis sur la banquette arrière pour que je raconte leur histoire, en fait parce que j'avais aucune fonction, n'avait aucun intérêt journalistique ce que je faisais. Je faisais des photos dont personne ne voulait et je filmais des images qui avaient la seule fonction de me donner une fonction dans cette équipe. C'est-à-dire que quand on allait voir des chefs de guerre, le fait d'avoir une caméra vidéo, je passais pour quelqu'un de sérieux. Alors qu'avec mon petit appareil de photo, tout le monde se moquait de moi.
Ouais. D'ailleurs, il y a plusieurs fois, vous avez essayé de rentrer, mais vous n'arriviez plus à rentrer en Suisse.
Alors ça c'est la raison du tour, c'est-à-dire qu'une fois que j'étais à Kaboul, moi j'ai pensé que j'allais simplement aller à l'aéroport et prendre un avion. Et c'est là que j'ai vu que les avions étaient entassés comme des mikados à l'aéroport, et puis que c'était beaucoup plus difficile de partir de l'Afghanistan que d'y aller. Les consulats étaient, il y avait des files qui duraient des semaines devant les consulats parce que beaucoup de gens voulaient partir. Mais et donc j'avais le choix entre rester tout seul à Kaboul ou monter dans la voiture avec les deux, et je suis monté avec eux.
Une dernière question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez que ce type de reportage, de journalisme en immersion est encore possible aujourd'hui à l'heure des téléphones portables, de l'omniprésence des images ?
Ah, moi je pense qu'il est encore plus possible aujourd'hui, et même on n'a pas tellement le choix de faire autrement. Comme je vous dis, il y avait des télévisions sur place, il y avait la BBC, qui avait encore beaucoup de moyens à l'époque, mais maintenant le journalisme a perdu de sa superbe, et en fait je pense que c'est comme ça qu'on peut encore faire du journalisme. C'est-à-dire c'est-à-dire s'embarquer dans une bagnole ou sur un bateau ou dans un train et voyager en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est une manière très contemporaine de faire du journalisme.
Claude Bechtold, merci d'être passé dans ce journal. Votre film Riverboom sort ce mercredi. On vous entendra plus longuement demain dans l'émission Vertigo.
Merci Sophie.
Merci. On passe à la météo avec la dissipation du brouillard et le soleil qui se ferait une place jusqu'en plaine, maximum 16 degrés cet après-midi et ce sera comme ça toute cette semaine.
La vie à peu près, Florence Grivel.
Cette semaine dans la vie à peu près, hommage à Alexandre Voisard, écrivain, poète, jurassien et surtout universel, disparu le 15 octobre dernier. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, soyez les bienvenus. Alexandre Voisard était le grand doyen de la littérature romande. Pour se souvenir de son œuvre et de sa personne, La Vie à peu près vous propose cette semaine d'entendre son récit de vie, un récit qu'avait recueilli Marlène Métraillé en octobre 2021, juste après son 90e anniversaire. Né à Port-en-Truy en 1930, cet enfant turbulent a vite eu la certitude que la poésie serait sa vie. Ses entretiens se sont déroulés au musée de l'Hôtel Dieu à Port-en-Truy, musée qui avait organisé une exposition en l'honneur du nonagénaire.
Bonjour Alexandre Voisard.
Bonjour Marlène.
On est installé ici à Port-en-Truy, dans un lieu qui vous est cher, on y vient tout de suite. Et ensemble, on va parcourir votre vie. 90 ans d'une vie, quel programme!
Oui, je me demande quelles ont pu être les mille et une stations par lesquelles j'ai passé. J'ai l'impression que tout ça s'est déroulé dans un rêve. Je pense que tout le monde qui parvient à cet âge-là pourrait en dire autant. Ça a été si vite qu'on ne voit pas. Heureusement que, pour ma part, moi j'ai laissé des traces, j'ai joué au petit pousset des pages et des livres, et j'ai maintenant de quoi mesurer le parcours que j'ai fait. Mais sinon, si je me remémorais cette succession de mille et un événements qui ont constitué ce parcours et m'ont façonné par les aléas de la vie, je ne vois pas comment ça s'est passé. C'est une espèce de miracle, la vie. Alors, si la vie est un miracle, elle est déjà dans ce fait de se dérouler à votre insu, vous contraignant à passer par-ci, par-là, par toutes sortes de détours qui ont été souvent des épreuves et qui finissent par constituer ce personnage que vous êtes aujourd'hui et qui est quelqu'un désormais de fatigué, mais parfois heureux de sa fatigue, qui signifie quelque chose, qui est aussi une disposition à la sagesse, je dirais. Je ne prétends pas être un sage, mais...
Dit Alexandre Voisard, 9 décennies plus tard, qu'on va parcourir... On entendait la cloche, là. J'aimerais juste qu'on dise un mot sur ce lieu. Vous avez choisi de me rencontrer au musée de Port-en-Truy. C'est un lieu assez emblématique pour vous, pour plein de raisons.
Oui, alors c'est un musée qui s'est créé à partir de l'ancien Hôtel Dieu, qui était l'hôpital des bourgeois de Port-en-Truy à l'origine. Et cet hôpital qui était devenu, par les exigences de la médecine moderne, insuffisant et a émigré hors de la cité pour constituer un hôpital moderne. Et celui-ci a été transformé en musée et en bibliothèque. Et c'est dans cet endroit où sont présentées régulièrement des expositions temporaires, où je me suis trouvé cet été dans des conditions un peu particulières liées à la pandémie qui a fait que mon exposition personnelle était ouverte, fermée, réouverte, refermée pour un temps et finalement rouverte. donc a subi toutes sortes de vicissitudes, quelque chose d'assez particulier. Bon, c'est mon lien dans un passé proche à cet hôtel Dieu.
Cette exposition, il faut quand même le dire, c'était un cadeau de la ville du canton pour vos 90 ans. C'était donc le 14 septembre l'année dernière, 2 jours après l'ouverture et le vernissage de cette expo, où on montrait vos dessins, vos peintures, où on vous rendait hommage.
Oui, enfin, c'était l'occasion. Comme souvent se font les choses, il y a des opportunités qui se présentent. Et là, je venais de terminer un travail avec une artiste vaudoise. Elle-même avait produit de magnifiques linogravures pour lesquelles on m'avait demandé des textes que j'ai rédigés avec grand plaisir et que je m'étais proposé de présenter en ce lieu-ci, où j'ai été accueilli dans un certain enthousiasme que j'ai accompagné de mes propres productions en quelques facettes de ce travail de diversion auquel je m'adonne en marge de mon écriture.
L'aquarelle, la peinture. Quand on est arrivé ici tout à l'heure, on était dans le quartier, ça m'a frappé. Il y avait une école que vous avez fréquentée, il y avait la maison de votre grand-père où vous vous installez jeune marié. Enfin, vous connaissez chaque pierre de cette ruelle. Et vous m'avez même dit, pour clore le chapitre sur ce musée, qu'à l'âge de 7 ans, vous aviez été opéré de l'appendicite dans la salle même où vous exposiez il y a quelques semaines.
Oui, tout à fait. Alors, on peut parler de l'ironie du sort, au cas particulier. Oui, à l'âge de 7 ans, je fus opéré de l'appendicite qui nécessitait à l'époque des hospitalisations. J'ai séjourné, je crois, une bonne semaine ici, en face de cette fenêtre, où l'autre jour, où je présentais mon travail contemporain.
83 ans plus tard.
Oui, c'est ça, vous avez fait le compte, vous savez, oui, plus de 80 ans, 83 ans exactement. Je me trouvais dans au même endroit, dans des conditions tellement différentes. Et, oui, ça me ramène un peu à cette enfance.
Alors cette enfance, on y vient. Le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, premier chapitre, c'est celui de votre enfance, des années rebelles. Je l'ai intitulé « Coco le rebelle ». Ça vous va ?
Oui, ça me va. Je fus ce rebelle, oui, certainement. Il y a un drôle de rebelle qui fit parler de lui de toutes les manières, au grand désespoir de ceux à qui j'avais affaire tout au long de ma route. Et il y a eu pas mal de gens. J'ai indigné et découragé beaucoup d'aînés, en tout cas, de parents, de gendarmes et autres institutions qui devaient veiller à ce que je devienne quelque chose de convenable dans cette foutue vie.
On va peut-être comprendre comment ce Coco devient aussi rebelle. Donc, on l'a dit, vous naissez le 14 septembre 1930, entre deux guerres, et ça c'est important. Donnez-nous quelques premiers souvenirs marquants. Qu'est-ce qui a constitué le caractère d'Alexandre Voisard, dit Coco, parce que Coco c'était votre surnom, hein, on est d'accord.
Oui, je crois que le souvenir le plus vivace que je garde de ma petite enfance, c'est les souvenirs d'été et des souvenirs de garçon solitaire déjà. Alors, je devais avoir 4 ans, je pense, quelque chose comme ça, 4 ans, peut-être 5 ans. J'étais toujours le premier levé dans la famille. Je parle de cette période de vacances, du plein été, où moi, je me réveillais très tôt le matin, enfant, et j'avais consigne de ne réveiller personne, bien sûr, puisque mon père, qui était lui-même instituteur, était en vacances dans cette période estivale. Donc, le temps n'était pas compté durant l'été. C'était pour ça que la plupart de mes souvenirs lumineux sont liés à la lumière d'été et à cette disponibilité des êtres autour de moi dans cette période de l'année. Et moi, j'étais toujours le premier éveillé et je sortais. À côté de notre chambre, se trouvait une terrasse sur laquelle je me précipitais dès que j'étais éveillé. Et là, ma première impression, c'était le sentiment de quelque chose d'éternel, de familier et d'inaccessible à la fois. C'était ce ciel d'un bleu si léger qui faisait oublier que c'était un ciel. Et le sentiment que j'avais à ce moment-là, c'était que le ciel n'existait pas. Et comment allait-il revenir ce bleu du ciel ? Du premier matin qui était encore quelque chose à quoi on aspirait, mais qui n'était pas là, puis qui était traversé du vol des hirondelles. Il y avait beaucoup d'hirondelles encore en ce temps-là. Elles ont beaucoup disparu entre-temps, hélas. Et les premiers chants d'oiseaux, ça m'apparaissait. Donc cette attente d'un ciel et ce concert d'oiseaux que j'ai dans l'oreille, c'est absolument ça. Donc un monde naissant et une musique. Pourrais-je résumer ces moments-là que je trouve fondateurs parce que j'y reviens en mémoire à tout instant de ma vie de grand vieillard aujourd'hui.
C'est comme si c'était hier.
Comme si c'était hier.
Vous évoquiez à l'instant la terrasse, la chambre où vous étiez manifestement plusieurs, le père qui était en vacances l'été puisqu'il était instituteur. En deux mots, cette famille, la famille d'Alexandre Voisard dit Coco.
Alors, on a été tout de suite une grande famille, enfin, une grande famille, oui. Si je prends comme repère mes 7 ans, j'avais une sœur aînée qui avait 2 ans de plus que moi. J'avais une petite sœur, un petit frère, nous étions 4, 2 filles, 2 garçons. Dès 1940, dès la guerre, mon père s'est empressé d'en faire encore 2 parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réservait. Et c'était bien d'avoir fait ces enfants-là qui naîtraient en 1940 et 1941. Donc c'était une famille de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Une famille turbulente dont j'ai été l'élément le plus perturbateur et le plus inquiétant pour mes pauvres parents.
Vous dites ça avec un petit sourire, on a un peu du mal à vous croire, mais quand même. Mais donc aussi un esprit indépendant, un peu solitaire, vous le disiez, un aventurier, quoi.
Oui, alors c'est assez curieux parce que j'ai toujours eu besoin de l'enseignement à côté de moi. L'enseignement de mon père, déjà, bien entendu, il a commencé là. Il a commencé très tôt. Mon père m'invitait, par son exemple, à observer la nature, les petites choses, les petits événements de la terre, la vie des insectes. Et les insectes, il fallait s'en méfier, parce qu'il y avait de redoutables. On n'aurait pas dû me dire ça, parce que j'ai passé... c'est une des nostalgies et des regrets de cette lointaine enfance, c'est que j'ai écrabouillé beaucoup d'insectes délibérément avec un plaisir coupable. Des coléoptères surtout, des quantités effroyables de coléoptères. Et cet acharnement sur les petits animaux innocents et fragiles s'est poursuivi au cours de ma prime adolescence. Je me souviens d'un crapaud que j'ai sacrifié avec mon couteau de ceinture, avec un plaisir féroce et sadique. J'en porte encore le poids aujourd'hui. Si j'ai commis quelques péchés dans ma vie, il y en a des plus ou moins grands. Et celui-là, par exemple, le sacrifice du crapaud est quelque chose qui est imprégné en moi.
Alexandre Voisard, on a évoqué ses 7 ans, le rôle fondamental de votre père, par qui vous avez appris beaucoup de choses. Et quand vous parlez de votre enfance, vous dites souvent que vous êtes né entre 2 guerres, après celle de 14-18 et avant celle de 39-45. Et justement, quand la guerre éclate, vous avez 9 ans, votre père va être mobilisé sur la frontière. C'est la fin de l'enfance, la fin de l'insouciance, c'est une étape marquante pour vous ?
Oui, c'est une étape déjà par le décor. Hein. Le décor change. On est entouré de militaires parce qu'on est dans un pays de frontières et on voit affluer des réfugiés français, civils et militaires. Il y a beaucoup de troupes françaises qui se rendent, qui abandonnent la lutte et qui se réfugient en Suisse, qui déposent armes et bagages à l'entrée en Suisse. Alors on est envahi de militaires français, il y a des Polonais aussi parmi les Français. Les Polonais sont venus au secours des Français. C'est un moment d'histoire aussi. Et ils sont, ces soldats français désarmés sont mélangés aux soldats suisses qui sont à la surveillance des frontières. Et tout ça est un monde assez étrange, un monde qui grouille en réalité autour de nous. Cette période de guerre, c'est surtout le paysage qui change. Et pendant ce temps, pendant que le paysage change, la famille est bouleversée complètement du fait que le père, qui est absent, a laissé place à cette pauvre mère et qui aura très vite ses 6 enfants aux trousses et qui mènera un dur combat pendant que ce petit coco se révélera très vite indépendant et rebelle et aggravera la situation de cette mère seule au foyer à gouverner la petite troupe enfantine. Puisque la grande troupe était tout alentour.
Mais vous vous souvenez, quand on a 9 ans, on a beau être rebelle, être un peu comme ça, fort en bras, c'est effrayant, c'est de l'inquiétude. Il y avait aussi ça caché sous vos excès.
Non, mais je ne dirais pas que je n'avais pas le sentiment d'être menacé par quoi que ce soit. Les menaces de guerre, c'est quelque chose qu'on entend dans la bouche des adultes. Mais nous, comme enfants, en tout cas moi, je n'ai jamais ressenti peser ce danger de guerre sur moi. C'était dans le vocabulaire des aînés, des parents, mais pour nous, enfants, pour moi en particulier, c'était une histoire qui se racontait hors de moi, qui va me nourrir d'ailleurs avec les années, parce que petit à petit, les événements vont se rapprocher. On va parler de maquis. Les maquis, un maquis s'organise non loin dans le Jura français, non loin d'ici, et les récits abondent, les livres apparaissent, des livres qui racontent les aventures des maquisards. Et il arrivera un moment où moi je rêverai d'être un combattant, de ces gens qu'on les présentait comme des héros. Mais moi ça m'intéresserait, je me suis tout à coup passionné pour ces gens-là qui menaient une guerre particulière dans des conditions difficiles. C'était tout près de chez moi et je devrais un jour les rejoindre, aller me joindre à ce combat, cette espérance, tout ça. J'étais nourri de cette littérature de résistance à ce moment-là et j'avais 13-14 ans. Et tout ça, ça a été l'étincelle qui a allumé cette dynamite qui allait me propulser à travers des événements insensés, mon adolescence que j'ai raconté en détail dans mon livre Le mot musique, et mon autobiographie de ma naissance jusqu'à mon mariage, parce qu'à partir de mon mariage, tout est acté, noté, rédigé, on a pour moi des repères, on sait ce que j'ai fait, par où j'ai passé, dès le moment où je me marie, parce que l'officialité, en quelque sorte, se met en route. Et là, on sait qui je suis, qui je deviens. Mais tout ce qui a précédé ce mariage avec mon épouse, qui est restée d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui où nous nous épanchons l'un vers l'autre dans nos fatigues d'aînés, qui égrenons un peu des souvenirs comme ça, que je considère comme désuets, hein, qui sont des petites choses qui n'ont pas l'impact, comme on dit aujourd'hui, de cette appréhension du monde au premier réveil à l'âge de 4 ans devant ce ciel qui n'est pas encore le ciel et parmi les oiseaux qui chantent ça, donc c'est quelque chose de très différent, donc c'est que des petits événements comme ça qui affleurent de temps en temps.
On va aller jusqu'au mariage, mais là vous brûlez un peu les étapes. J'aimerais revenir à cette époque de l'adolescence mobilisé, j'allais dire, par la guerre. Il y a une chose qui revient constamment quand vous parlez de vous, c'est que vous vous présentez volontiers comme un saute-frontière, comme un passe-frontière. Vous allez le faire après votre retraite, quand vous retraversez pour aller vous installer définitivement du côté français. Cette frontière, d'autant plus quand on l'appréhende en temps de guerre, c'était un lieu de transgression aussi, c'était un lieu qui attisait le côté rebelle que vous aviez.
Oui, bien entendu. Alors, je vous parlais de cette fascination que j'avais pour le maquis et les maquisards, à commencer par me pousser vers les frontières qu'il fallait évidemment passer pour rejoindre le maquis. Parce que mon idée, c'était de devenir un maquisard et d'apprendre le métier des armes et d'avoir entre les mains un fusil. Voilà.
Alors que c'était formellement interdit.
Bien entendu, les frontières étaient farouchement gardées, et garnies de barbelés tout au long de la joie, en tout cas. J'ai cherché à passer la frontière, j'ai réussi à passer la frontière à plusieurs reprises, à me glisser sous les barbelés. J'ai appris comme ça à devenir ce passant. Je rejoignais parfois. Alors il y avait les troupes, j'ai rencontré au cours de mes périples transgressifs des soldats français qui appartenaient à la division Leclerc, qui remontaient vers l'Alsace à partir de la vallée du Rhône et qui ont séjourné pendant quelques temps dans la région voisine, à la porte de l'Alsace où les Allemands résistaient, offraient une dernière résistance dans leur débâcle. Et là, je me suis mêlé pendant quelques temps à ces soldats français.
Vous étiez seul ?
J'étais seul. J'ai échangé du tabac suisse à des soldats français contre leur mise d'un fusil. Un fusil allemand qu'ils avaient ramassé en cours de route. J'avais un fusil allemand avec des munitions allemandes qui allaient avec.
À 12-13 ans ?
Oui, j'avais 14 ans. On me traitait, c'était... Parce que ça m'étonne encore aujourd'hui. Partout où j'allais, on me considérait comme quelqu'un d'abouti, enfin comme un adulte. Jamais qui que ce soit à l'âge de 14 ans ne m'a dit « Mais tu as quel âge ?» Quand je me présentais quelque part, disait « Mais ouais, bah, c'est un jeune homme, quoi. » Un jeune homme. Alors je ne dirais pas que j'avais mûri très vite. Quand même, j'étais nourri comme ça, de rêves et de fantasmes de toute nature, très tôt, avant de tomber dans l'écriture, qui serait une autre aventure, alors qui me détacherait un petit peu de tout ce monde-là, qui était typiquement un monde de rebelles véritablement armés, qui avaient choisi d'être un combattant quelque part, dans un endroit avec des gens qui se cachent, qui sont poursuivis et qui en poursuivent d'autres. C'est cette vie d'aventure qui m'avait attiré pendant longtemps. Et puis, je vais tomber en écriture par des événements très, très particuliers, des petits accidents domestiques.
Et ça, c'est vers 15-16 ans, les premiers poèmes.
Tout, c'est 15 ans. 15-16 ans, oui. Moi, j'étais quand même très curieux de nature et... Je fouillais les tiroirs de mon père comme je fouillais le cartable de ma sœur aînée qui, en classe, étudiait dans des livres qui étaient bien au-dessus de mon intelligence et de mes capacités intellectuelles. Mais je suis tombé un jour sur un recueil de textes qui s'appelait « Texte français », tout simplement. C'était un livre de lecture constitué de textes pris dans la littérature française, la grande littérature en fait, et qui aboutissait déjà à cette époque-là, dans les années 44-45, avec des poèmes d'Apollinaire et d'Éluard. D'Apollinaire, Éluard et Aragon même, figurez-vous. Nos braves pédagogues qui veillaient à ce qu'on soit au courant de la littérature française voyaient clair déjà et allaient assez loin dans l'audace littéraire. Parce que déjà, en 1945, vous lisiez un poème d'Éluard à quelqu'un, ou même à un Apollinaire, disait, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, disait-on à l'écoute de ces poèmes-là. Et moi, j'étais Un jour, j'ai découvert un poème d'Éluard dans le livre en question, qui m'a ramené à un autre événement d'enfance, tout à fait fondateur lui aussi, c'est la découverte du cœur de la terre. Moi, je parlais à mon père qui jardinait, Je lui parlais de tout et de rien. Je lui posais des questions de tout ordre, qui avaient en général rapport à ce qu'on voyait dans la terre et sur la terre et dans les airs, dans le ciel, donc au-dessus de nous. Et je lui avais posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans la terre? Là, tu grattes la terre, on trouve des vers, des asticots, des petits coléoptères, des scarabées. Et puis si on continue à creuser, si on creuse plus loin, on trouve quoi? Ben, tu trouves... Il y a des cailloux, tu vas trouver de la glaise, tu vas trouver différentes choses, mais si on creuse encore... Ah ben, si tu en creuses encore plus loin, tu arrives au cœur de la Terre. Et le cœur de la Terre, c'est quelque chose qui me fascinait. Un jour, je me suis approché au pied de la maison que nous habitions alors, qui était une grande maison locative. J'ai trouvé un coin de la maison sablonneux qui était facile à creuser. Je me suis mis à creuser avec ma petite pioche d'enfant, à creuser, au pied de la maison. Et puis je suis tombé sur une forme flasque, je ne sais pas ce que c'était. Et tout à coup, je me suis dit, mais voilà, j'ai trouvé le cœur de la terre, c'est le cœur, ça c'est le cœur. Et j'étais effrayé, dit, je me suis sauvé, je me suis enfoui. Et réfugié au fond de la cave. C'est une cave obscure, inamicale. Dans cette cave, j'ai sorti le cœur, j'étais au cœur de la terre, j'ai violé la terre. C'est un sentiment de viol. C'est assez curieux pour un enfant de 7 ans, j'ai commis un péché. Je n'avais pas le droit d'aller comme ça déranger le cœur de la terre. Je ne sais pas ce que c'était, cette forme flasque, d'ailleurs, je n'ai jamais su.
Vous n'êtes pas retourné voir.
Mais je ne suis pas retourné voir, mais cette angoisse du cœur de la terre, je l'ai retrouvée dans un poème d'Éluard, 7 ou 8 ans plus tard, dans un livre. Là. Et ce poème d'Éluard disait « Nous approchons, la terre en a le cœur crispé. » La terre en a le cœur crispé. Et cet événement d'enfance m'est revenu avec une violence terrible à ce moment-là, et je me suis dit, après coup, il faut que je revienne à ce poème, à cette poésie, et je suis entré dans cette poésie d'Éluard et dans la poésie contemporaine par cette petite porte-là, alors que jusqu'à présent, je n'étais que quelqu'un d'ignare, pas du tout culturé d'aucune manière, sinon de cet appétit que j'avais au spectacle de la nature. Mais la découverte de la poésie, des pouvoirs de la poésie m'est venue de là. Je me suis dit, les mots, ils disent beaucoup plus qu'eux-mêmes. Et ils disent toujours quelque chose de profondément vrai, puisque Éluard, qui ne me connaît pas, a su dire, à un moment donné de ma vie, il me dit, voilà petit, voilà ce que ça voulait dire.
Alexandre Voisard, on va quitter Coco bientôt, parce que demain, on aborde un autre sujet. On vous laisse à ce moment 15-16 ans quand vous découvrez la poésie, que vous avez cette intuition que peut-être, mais vous n'avez pas encore découvert votre vocation. Après, vous ferez un petit détour par la poste. J'imagine qu'il fallait bien avoir un métier. Et vous allez partir, vous égarer quelques années à Genève. Vous êtes en quête de théâtre. Je vous résume là, vous m'en voulez
oui.
pas.
Non, mais c'est mon parcours, oui.
Et en 1954, vous allez revenir en Ajoie, revenir à Port-en-Truy, revenir au pays, et vous allez rencontrer Thérèse, celle qui vous amènera au mariage et à cette nouvelle vie où vous êtes plus responsable. Maintenant, les règles de nos rencontres quotidiennes toute cette semaine, c'est qu'on se quitte en musique. Alors, vous avez réfléchi à quelques morceaux qui vous plaisent, qui vous parlent. J'aimerais bien savoir quel est le morceau que vous choisissez là aujourd'hui pour nous quitter.
Ben, peut-être Vivaldi, le printemps.
Les quatre saisons, le printemps.
Ouais.
On écoute. Pourquoi d'ailleurs?
Moi, j'ai besoin de musique, donc... Toute musique est bonne à mon appétit. Il ne faut pas plus de 3 mesures de Vivaldi pour me mettre en joie. Voilà. Parfois Beethoven aussi me saisit instantanément. Mais Vivaldi à coup sûr, n'importe quel Vivaldi, 3 mesures de Vivaldi, ça y est, je suis heureux.
Bon, à demain Alexandre Voisard et mettons-nous en joie.
Le printemps de Vivaldi, version des Lausanne Soloistes, des musiciens issus de la Haute École de Musique de Lausanne, dirigée au violon par Renaud Capuçon. Musique chérie par Alexandre Voisard, à qui nous rendons hommage cette semaine. Il était au micro de Marlène Métraillé, c'était en octobre 2021. La vie à peu près, c'est une émission coproduite par Agnès Éveillé et Florence Grivel, assistée d'Audrey Zano. À demain pour le prochain épisode consacré à Alexandre Voisard. Belle suite de journée sur RTL.